Adama, sa pavil dama, loci dama.
Zvijeko priječu graljama, sa pavil dama, loci dama.
Elles ont des ailes différentes, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Oui, bonjour, vous êtes bien sur Radio Panique à l'écoute de l'émission Elles en parlent encore, une émission de Vie Féminine Bruxelles tous les samedis entre 13 et 14 heures. Aujourd'hui à l'animation Hélène et à la technique Tamara. Alors aujourd'hui, nous apportons une nouvelle pierre à notre réflexion sur le thème des femmes et le logement. En effet, après une émission sur les habitats groupés, une autre émission sur les femmes et la construction, nous recevons aujourd'hui des femmes qui, par leur vécu, peuvent tout à fait nous parler de ce que c'est être femme et avoir des problèmes de logement. Nous écouterons aujourd'hui Khadija, qui nous vient du Relais, Aurélia et Madame Diallo Fouad, qui viennent nous parler d'alarme. Mais d'abord, je vais les laisser se présenter. Khadija.
Voilà, je m'appelle Khadija, je suis au Relais depuis le mois d'avril et bientôt je vais avoir mon appartement.
Bonne nouvelle.
Oui.
Allô, bonjour, c'est Madame Diallo. J'habite Molenbeek. Je fais partie du groupe Relais. Alarme. Donc, je suis invitée à cette émission parce que généralement c'est quelque chose que nous vivons au quotidien et je suis venue en fait pour expliquer un vécu quoi.
Mais oui, je pense que quand on parle de son vécu, c'est plus fort, c'est mieux que les grands discours théoriques. Donc, bienvenue à vous. Et puis aujourd'hui, nous avons aussi Aurélia.
Bonjour, je suis Aurélia, je travaille comme assistante sociale à Molenbeek. Et la maison de quartier Bonne Vie a initié il y a 8 ans un projet qui s'appelle Alarme et qui rassemble des gens qui ont encore des difficultés en matière de logement ou qui s'en sont sortis et qui militent pour le droit au logement pour tous.
Alors je voulais vous demander, Khadija par exemple, toi tu dis que tu viens du Relais, c'est quoi le Relais en quelques mots et puis qu'est-ce que ça représente pour toi?
C'est un centre d'hébergement et qui accueille des gens qui se retrouvent à la rue par tout problème et ce que ça représente à toi d'abord pour nous et beaucoup d'histoires.
Ok, et pour vous Madame Diallo, c'est quoi pour vous Alarme, ça représente quoi?
Alarme, c'est une association qui aide les personnes plus ou moins défavorisés et sans papiers et ayant aussi les papiers, mais qui sont en difficulté pour des problèmes de tout genre, en fait, surtout pour l'engagement, pour la recherche d'un logement adéquat et pour l'assistance aussi en cas de problème avec les propriétaires généralement. Et beaucoup de choses sont arrangées, enfin sont réglées au niveau de Alarme.
Mmh. Oui, c'est sans doute une aide individuelle, mais moi je vous ai déjà vu en train de faire des actions ensemble.
Oui, nous sommes en fait une grande famille. On est là à chaque fois, on se retrouve, que ce soit en cas de difficulté ou pas de difficulté, comme hier par exemple. Et bon, voilà, c'est pour quelquefois manger, se donner des idées, et puis. Pour les fêtes, il y a des gens qui ne peuvent pas du tout faire des repas en famille ou des repas seuls. Donc, on se retrouve là, on nous offre des repas et puis on vit comme en famille, comme si on se retrouvait tous en famille. Et puis, bon, c'est une association Alarme quand même qui aide beaucoup. Pas dans le domaine du logement seulement, dans beaucoup de domaines. Parce que, comme vous le savez... Et moi, je suis arrivée à Molenbeek après un incendie d'un logement à 1000 Bruxelles. Donc, j'avais des ennuis, je ne pouvais plus payer les avances et tout pour le logement. Donc, je suis venue, j'ai été aidée pour ne pas être dans la rue. Donc, et c'est après un incendie et je n'avais pas les papiers en norme. Je n'étais pas encore régularisée. Donc, je n'avais pas en ce moment droit au logement parce que les autres personnes étaient relogées, mais moi non. Mais finalement, je suis venue, l'association Alarme, ils m'ont pris en charge, ils m'ont aidé, et puis bon, voilà, jusqu'à ce que j'ai retrouvé, enfin, le bout du tunnel, je peux le dire ainsi, mais bon.
Voilà. On va discuter ensemble de tout ce qui fait que le logement, c'est difficile. Mais Aurélia, je voulais te demander, ça veut dire quoi, Alarme ?
Alors, Alarme, ça veut dire action pour le logement accessible aux réfugiés à Molenbeek. Et peut-être que Madame Diallo a quelques difficultés à dire son engagement et qu'elle parle plus d'Alarme comme si c'était l'aide. Non, je pense que l'aide passe par la permanence logement qui est organisée à la maison de quartier Bonnevie. Et c'est suite à tout ce qu'on entendait en tant que travailleurs sociaux dans ces permanences individuelles qu'on s'est dit qu'il était intéressant et surtout très important de ramener la problématique du logement à quelque chose de collectif qui ne concerne pas que les sans-papiers, que les personnes d'origine étrangère, que les femmes seules. Ça concerne tout le monde et tout le monde a son mot à dire par rapport à cette question. Parce qu'elle est fondamentale. Si on n'a pas de logement, eh bien, ou si on a un logement mais de mauvaise qualité, trop petit, insalubre, ça a des répercussions sur la santé, sur l'éducation des enfants, sur l'entente conjugale. Et finalement, ça détériore toute la vie. Parce que le logement, c'est là où on peut se retrouver dans une intimité, se retrouver soi. Aussi pour trouver un travail, si on n'a pas de logement, ben c'est pas facile à gérer, puisqu'on est toujours dans l'urgence de gérer où est-ce que je vais dormir ce soir, ou comment ça va se passer ce soir pour les devoirs, par exemple. Alors, Alarme, le fil rouge d'Alarme, c'est le témoignage. C'est comme ça qu'on a commencé. On était des travailleurs sociaux confrontés à des situations invraisemblables pour lesquelles on n'avait pas de solution. On se sentait complètement impuissant. Donc en 2001, on a proposé aux familles, parce qu'il s'agit de souvent de familles, mais pas seulement de familles, de se rassembler autour d'une table et de discuter déjà. De se rendre compte que le voisin, ben, il a peut-être un problème identique, si pas plus grave. Et il y a aussi l'idée de solidarité entre soi, enfin entre les membres, pour dire, ben, moi j'ai connu la même chose que toi, mais je m'en suis sortie. Ça n'a pas été facile, j'ai dû me battre aussi, parce que l'assistant social ou le travailleur social, il peut être là. Mon rôle dans le cadre des actions et des réflexions menées avec le groupe, c'est de dire aux gens, voilà, je vous transmets une connaissance pour que vous puissiez mieux vous défendre, ou mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du logement à Bruxelles.
Ok, alors maintenant on va déjà faire notre première pause musicale. Mais Khadija, je voudrais que tu présentes le morceau, parce que c'est un morceau que tu as choisi.
J'ai demandé Morane, et le titre j'ai oublié.
Bon, on va découvrir ça ensemble. Alors bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pénic, l'émission Elles en parlent encore, l'émission de vie féminine. Nous parlons aujourd'hui du thème du logement. Khadija, Mme Diallo, vous avez toutes les deux eu un problème de logement et j'aurais voulu savoir un petit peu qu'est-ce que vous aviez comme problème de logement et puis comment ça se fait que tout d'un coup on perd ce logement, on a un logement puis on n'en a plus, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous ? Khadija, tu veux ?
Il se passe que, en fait, j'étais dans un appartement de transit. J'avais un bail de 3 ans, on va dire. Et après 3 ans, on a quitté l'appartement. De but en blanc, j'avais fait une demande pour prolonger de rester encore un an parce que j'étais en pleine formation. Et le propriétaire n'a voulu rien entendre. Et voilà. J'ai dû partir et je me suis retrouvée au relais.
Et tu as eu combien de temps comme ça pour partir ?
Trois mois.
En plus, tu étais en formation à ce moment-là. Tu étais en train de construire quelque chose.
Oui. Mais je veux dire, on est impuissant à ce moment-là. Franchement, on n'a rien. On n'a plus rien puisque, bon, on perd tout. On se pose des questions par rapport à ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir, les enfants surtout. Et puis, bon, on fait des démarches. On essaie de trouver un toit. Mmh. J'ai eu de l'aide de ma famille. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas une solution d'aller dans la famille parce que, bon, la famille aussi, ils ont des obligations, ils ont leur vie. Ils ont, comme disait tout à l'heure Aurélia, un chez-soi, c'est un chez-soi, quoi. au relais, c'est difficile. C'est difficile, il y a des moments, ça va, il y a des moments très difficiles. Puis c'est pas vivable à long terme. À court terme, ça va, mais à long terme, ça devient lourd parce que il y a toutes sortes de problèmes. Les gens, ils ont tous différents problèmes à soi, mais mélangés. On se dit des choses qui s'entendent, des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. Et pour soi, c'est pas... Je veux dire, il faut avoir un caractère assez dur et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Mmh. Sinon, c'est la rue, c'est... Et l'éducation aussi des enfants, c'est perturbant, c'est... Mais il faut se battre.
Il faut se battre.
Mmh. Beaucoup.
Oui.
Et vous, Madame Diallo, qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Mais en fait, j'avais un logement, c'était au mois de février 2006... Il y a eu un incendie à la rue de Vautour, ici à Mille-Bruxelles. Donc, j'habitais là. Et l'incendie, bon, ça a pris feu. Et heureusement, c'était chez le propriétaire que ça a commencé. C'était pas chez moi. Mais alors, c'est monté. Donc, nous étions au deuxième étage. Alors, j'avais pris panique quand même, parce qu'il y avait maintenant la fumée et tout. Les gens, quand j'ai eu à ouvrir les fenêtres, ils m'ont dit d'attendre que les pompiers arrivaient. Et que quand j'ai vu combien de fois que les choses pétaient à l'intérieur de la maison, j'ai dit sauter. J'ai sauté, effectivement. J'ai eu deux fractures. Et puis vraiment, j'ai été hospitalisée pendant 5 mois ici, en rééducation à l'hôpital Brugmann, à la cité René Magritte, dont je suis restée. Après là, maintenant, c'était le parcours du combattant. Il fallait rechercher encore maintenant un toit parce que j'étais maintenant plus ou moins rétabli. Je venais seulement pour la kinésithérapie à l'hôpital Saint-Pierre. Alors, il y avait des problèmes. J'ai une amie qui loge à Molenbeek, qui est quand même a vu un appartement vide et m'a signalé à l'hôpital même. Mais alors, on est venu voir. Il y avait une femme qui sortait. Bon, elle m'a vu en état très difficile. Je lui ai dit que j'avais tout perdu pendant l'incendie et tout. Alors, elle avait même, elle, aussi pitié. Donc, de toute façon, elle m'a dit que bon, voilà. Vous pouvez rester là, mais c'était plus ou moins aussi un logement à problème parce qu'il n'y a pas de chauffage, il y a assez de problèmes, d'humidité. Donc, je suis revenu. Il y avait aussi le problème de donner, quand on demande, il faudrait bien payer une caution, une garantie locative. Et la garantie, en ce moment, je ne pouvais pas la payer, d'autant plus que je suis revenu redemander les autres. Là où j'habitais à Mille-Bruxelles, là où il y a l'incendie, parce que c'est pas moi qui ai cassé le contrat, rupture de contrat, ça ne venait pas de moi, c'est suite à l'incendie que ça a eu lieu. Donc, il fallait qu'on me rende mon argent. Malheureusement, ils n'ont pas voulu entendre ça. On est allé jusqu'en justice, et jusqu'à l'heure où je vous parle, jusqu'à maintenant, encore au mois de février là, on est convoqué. Jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu rendre. Ils ont dit, effectivement, qu'ils devaient me rendre. On a été chez le juge de paix, tout a été dit. Bon, mais jusqu'à présent, malgré tout, ils n'ont pas rendu l'argent. On a envoyé un huissier, j'étais obligée de tourner. Donc, il y a des difficultés pour reprendre le logement parce qu'il faudrait déposer une garantie locative. Et généralement, je me suis posé cette question une fois quand je suis venue à Alarme. Je me suis dit, alors on donne une garantie locative. Après, on a des difficultés pour redonner encore une autre parce que pour se reloger, on n'arrive pas. Le propriétaire, il ne rend pas. C'est ça que je n'arrive jusqu'à présent. C'est la grande question que je me pose et que peut-être que je n'aurai jamais de réponse. Pourquoi on ne rend pas la garantie locative? C'est suite à un incendie. C'est pas moi qui ai coupé le contrat de bail. Donc, je suppose que d'abord, la maison, quand généralement vous la louez, elle n'est vraiment pas en état d'être même remboursée. Dire que bon, cette garantie, on la dépose si vous cassez quelque chose. Souvent en état de détresse. Et parce qu'on a envie de se loger, on rentre. C'est nous-mêmes qui faisons la peinture, qui arrangeons par-ci, par-là, qui installons même le gaz. Et puis, comment dirais-je, les chauffages, tout et tout. Donc, vous le savez, c'est des ennuis. Mais moi, je sais qu'on a des difficultés énormes, énormes. Moi, c'est comme je disais tantôt, c'est quand je suis venue à l'arme, j'ai expliqué mon problème et tout. À l'époque, j'avais même mes béquilles, je ne savais même pas marcher. Et c'est en ce moment qu'ils ont pu quand même faire quelque chose pour moi. Et puis, bon, voilà, c'est difficile, je vous le dis, hein, pour se loger et puis pour avoir un logement. Si on perd une fois par sa faute ou par la faute même de la personne, d'une autre personne, c'est-à-dire un propriétaire qui brûle par-ci, qui brûle par-là, donc vous êtes obligé de quitter. Et pour retrouver un autre toit, c'est vraiment difficile, c'est un parcours du combattant.
Et ce premier logement qui a brûlé, il était comment? Comment ça se fait qu'il y a un incendie qui éclate comme ça?
Ben oui, ben j'ai même le journal. Moi, j'ai le journal qu'on avait sorti ici, le métro et autres. Je l'ai jusqu'à présent parce que le logement n'était pas si mauvais quand moi j'arrivais. Quand j'habitais là, parce que c'est suite à un autre logement qui n'était pas bien, qu'on avait déclaré insalubre, que j'ai quitté pour venir au second logement où ça brûlait. Donc, c'était acceptable. Mais le propriétaire habitait là. C'était lui qui était au premier et ses enfants étaient au rez-de-chaussée. Donc, ils ont dit que c'est suite à une cigarette mal éteinte dans la chambre des enfants. Et je ne sais pas ce qu'ils ont dit, c'est dans le journal. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment ça a brûlé. Moi, c'est les flammes qui m'ont réveillé, donc moi, je ne sais pas ça. Et puis, jusqu'à maintenant, je n'ai pas su et je ne sais pas comment.
Ce qui me frappe dans ce que vous me racontez, c'est que vous aviez un premier logement complètement insalubre, vous arrivez dans un deuxième logement, oui, plus ou moins correct, il y a le feu. Un troisième logement, vous ne vous êtes pas étendu dessus, mais pas de chauffage, rien du tout. Toi, Khadija, je sais quand on a préparé l'émission aussi que tu m'as parlé aussi des logements successifs que tu as eu. Ça a l'air d'être une histoire sans fin. Ça, Aurélia, toi, peut-être que tu peux un peu parler de ça.
Alors, j'ai un petit peu envie de réagir et puis j'ai noté déjà beaucoup de choses. Je pense que c'est fort important ce que vous avez abordé, Madame Diallo, concernant la garantie locative, qui est un des combats des membres d'Alarme. La garantie locative, c'était ce qu'on réclamait déjà en disant c'est une difficulté pour les locataires qui n'ont pas d'argent devant eux pour constituer cette garantie locative. Alors, savoir pourquoi le propriétaire ne rend pas, moi je veux juste ici rappeler la loi. Parce que c'est un des travaux fondamentaux avec les membres d'Alarme, c'est apprendre la loi pour pouvoir défendre ses droits et pour savoir aussi quand est-ce qu'on fait des bêtises. Parce que c'est pas non plus, tous les locataires ne sont pas des bons locataires, tous les propriétaires ne sont pas des bons propriétaires, mais ne mettons pas tout le monde dans le même sac. C'est un débat qu'on a déjà eu avec les membres d'Alarme aussi. Des bons propriétaires, ça existe aussi. Alors, la garantie locative est un montant qui normalement correspond à 3 mois de loyer et qui doit, à la fin du bail, lorsque le locataire s'en va, eh bien, s'il y a eu des dégâts locatifs, à ce moment-là, le propriétaire peut prendre une partie de cet argent, mais en remettant un devis, en disant, voilà, ça va me coûter, ce que vous avez cassé, ça va me coûter autant, et donc, je prends ça sur votre garantie locative. Alors, ce qui se passe dans des logements, parce qu'on parle ici de logements de mauvaise qualité, voire insalubre. Hein. Tous les logements ne sont pas comme ça non plus. Hein. Mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on a un revenu de remplacement, les propriétaires hésitent à louer. Et quand ils louent, ils louent pour des prix trop élevés en fonction de la qualité du logement. Et ça, c'est la crise du logement à Bruxelles. Alors, donc cette garantie locative, il y a pas mal de propriétaires qui ne respectent pas la loi en la bloquant sur un compte aux deux noms à la banque, hein, et qui prennent cette garantie.
Ça, c'est la loi.
Ça, c'est la loi. La loi dit, oblige les propriétaires à consigner cette garantie locative sur un compte à la banque au nom du locataire et du propriétaire. Il faut savoir aussi que cet argent vous appartient au départ et que la banque vous donne même des intérêts sur cet argent. Et qu'au moment de la restitution de la garantie locative, si le propriétaire, et vous avez versé ça en espèces, ce qui n'est pas légal, eh bien, à la restitution, il doit vous donner même les intérêts lui-même. Hein. Et, encore une chose importante, me semble-t-il, si un propriétaire vous a fait payer une garantie locative en espèces en main propre, vous pouvez aller chez le juge de paix pour exiger du propriétaire qu'il verse cette garantie sur un compte bloqué, qui est en fait une façon de préserver cet argent d'une certaine façon pour que le propriétaire ne puisse pas se l'approprier et avoir une position de pouvoir par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Alors, la garantie locative...
Attends, je vois que même la loi a envie de dire quelque chose.
Vous savez, ce que vous venez de dire, je suis entièrement d'accord, c'est la loi. Mais quand on est devant une situation difficile et qu'on a envie de se loger, on ne peut pas imposer quoi que ce soit. Parce que déjà, c'est un problème d'être accepté par eux pour avoir ce logement. À plus forte raison, quand ils disent, vous devez donner 900 euros, qui est mon cas, 950 euros pour vos 3 mois... Encore s'arrêter devant la même personne alors que vous êtes vraiment dans le besoin, non, mettez ça dans un compte, ça c'est quelque chose que vous ne verrez jamais une personne qui a une maison qui loue, qui le fera et qui l'acceptera. On n'a même pas en ce moment, c'est-à-dire la possibilité de défendre nos droits parce qu'on est devant une nécessité. Quand on a envie de se loger, quoi qu'on te dise, pour l'instant tu acceptes. Moi en tout cas c'est mon cas. Et je sais que beaucoup de gens sont dans la même situation que moi. Tu ne peux pas imposer à, il va te dire d'ailleurs, difficilement il te reçoit même pour accepter que vous parliez de ce logement, même si c'est écrit à louer. Souvent, si c'est pas des gens soi-disant africains et autres entre vous, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Comme vous n'êtes pas peut-être dans la même situation, vous pouvez penser que, moi, en tout cas, pour ce qui est de mon cas, je connais mes droits. Mais il y a des situations où je ne peux pas imposer ces droits. Parce que je suis dans le besoin. Je ne peux pas imposer mes droits étant dans le besoin. Lui dire, bon, il va me dire, vous voulez me dicter ce que je dois faire pour mon appartement. Ben alors, je ne vous loue plus. Et toi, tu es dans une situation. Comment faire? Voilà, c'est pas facile.
Et moi, je voulais me poser la question de savoir, par rapport à ça, quand on est femme, toi, Khadija, t'étais femme avec enfant, est-ce que c'est quelque chose qui est encore plus difficile d'arriver à imposer ses droits par rapport au logement?
Oui, parce que y a trop de... Comment on dit ça? Trop de difficultés, il y a trop de choses qui vous retombent sur la tête et vous devez faire attention par rapport aux enfants, l'éducation, l'école. Si on n'a pas de logement, eh ben ça veut dire que les enfants ils dorment pas bien, qu'ils vont pas faire leurs devoirs. Un exemple, quand j'étais dans mon flat, j'étais dans un flat, j'ai 4 enfants. Donc, pour faire les devoirs, le flat, c'est une pièce où on dormait, on mangeait, on regardait la télé. C'était un tout. Donc, pour faire les devoirs, c'était vraiment à genoux, par terre. Donc, il faut faire attention à tout parce que, il y a aussi tout ce qui est placement derrière, tout ce qui est assistance sociale, des services sociaux, la justice, service d'aide à la jeunesse, service de la protection de la jeunesse. Et on se dit comment on va faire, si on va s'en sortir, si on ne va pas s'en sortir. Et puis on a toujours besoin d'aide. On est toujours... il y a un moment donné, on se dit, on a envie d'arrêter parce que, c'est trop trop lourd à porter tout seul. Mais on n'a pas le choix parce qu'on a des enfants.
Mmh. C'est... Et malgré tout, souvent, ça reste encore fort la responsabilité de la femme de faire attention aux enfants.
Oui, mais je crois que même pour un homme, je veux dire, parce qu'il y a des hommes, ils ont la garde des enfants, eux aussi, ils ont difficile. Mais peut-être que c'est peut-être moins difficile dans le sens où, bon, ben, s'il travaille, ben, entre guillemets, ça reste un homme. C'est plus fort et plus, je dis bien entre guillemets. Mm-hmm. Et c'est tout à fait autre, mais une mère, je pense que c'est quand même aussi sensible et pour plein de choses. Pour une femme, c'est...
Ce qui m'impressionne dans ce que tu dis les hommes, parfois, ça travaille, et alors c'est plus facile. Et c'est vrai que dans les relations de couple, c'est souvent, effectivement, l'homme qui travaille et les femmes qui s'occupent des enfants. Et donc, en cas de séparation, c'est vrai que ça peut amener une grande précarité. Parce qu'effectivement, même s'ils ont tous les deux la charge des enfants une semaine sur deux ou des choses comme ça, l'homme, il a pas interrompu son travail, il a souvent des revenus. Et puis, les femmes ont souvent des revenus de remplacement, ce qui fait que c'est plus, souvent plus dur pour elles par la suite.
Est-ce que oui, je peux Aurélia. Réagir à ça? Je sais, je prends la parole, mais je pense que la notion de travail par rapport à la recherche de logement devient capitale à Bruxelles, puisque les propriétaires maintenant, vu qu'il y a la file pour des logements, eh bien, ils demandent des fiches de salaire. Je pense que les hommes sont aussi touchés par le chômage, hein. Donc tous les hommes ne travaillent pas.
Oui, 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 tout à fait. Mais je veux dire, quand moi je dis je parle surtout, enfin, un homme seul a plus facilement de, je dirais même, bon, s'il est au chômage, c'est tout à fait autre.
Attends, juste encore une petite réflexion. En cas de jugement, l'homme peut être condamné à une pension alimentaire. En matière de pension alimentaire, tout est saisissable. Et moi, dans le cadre des permanences logement, j'ai rencontré des hommes qui n'avaient plus un franc devant eux, alors qu'ils peuvent demander l'aide au CPS, mais c'est une aide très réduite, et qui se retrouvaient aussi dans des difficultés énormes. Mmh. Hein. Voilà.
Oui, mais là, on est aussi sur d'autres combats. Tu vois, nous, on espère que le CECAL, donc, par rapport aux pensions alimentaires, fasse son travail. Parce que c'est vrai que toi, tu as rencontré des gens qui l'ont donné, la pension alimentaire. Nous, on rencontre beaucoup de femmes qui ne la donnent pas, qui ne reçoivent pas la pension alimentaire. Et pour l'instant, on aimerait vraiment que ce CECAL fasse son travail. Parce qu'effectivement... Quand les femmes ne reçoivent pas leur pension alimentaire, ça les met vraiment dans des grandes, grandes difficultés. Donc, et puis il y a des chiffres aussi, quand on a eu les chiffres du contrat de quartier à Molenbeek, on s'est rendu compte qu'il y avait quoi ? Il y avait 10% des femmes qui travaillaient. C'est terrible, je veux dire, ça les met dans une situation de précarité, de dépendance complètement grave. Madame Diallo, parce que on a laissé votre histoire là. Moi, je suis partie sur est-ce que c'est plus dur quand c'est une femme. Et là, vous me parliez des difficultés quand vous êtes acculée à trouver un logement. Vous êtes devant un propriétaire qui exige une garantie locative et qui l'exige la main à la main. Vous dites, on n'est pas dans une situation à négocier quand on est comme moi tellement précaire. Est-ce que vous pensez que le fait d'être femme, ça vous a encore compliqué la tâche?
Mais enfin, je ne peux pas dire que c'est parce que je suis femme que ça a compliqué, mais c'est parce que je pense que ce soit un homme ou une femme, c'est que les gens là, les propriétaires, comme disait tantôt Aurélia, ils n'ont pas toujours tort, d'accord, mais ils imposent des choses face à eux. Toi qui viens louer face à un propriétaire, il impose des choses. Parce que toi-même, tu leur dis tout ça. On met ça à la banque, à un compte. Parce que tu sais, moi, je le sais qu'on doit le faire ainsi. Mais ils me disent, non, mais vous ne me dites pas ce que je dois faire. Et d'ailleurs, là, je ne vous loue plus. Carrément, ils te le disent comme ça et je ne vous loue plus. Et vous êtes dans une situation. Vous voulez un logement. C'est difficile. À l'époque, moi, j'avais des problèmes. J'ai eu deux fractures. Donc, sur le même pied, tout. Donc, c'était vraiment dur. Donc, il faut prendre. Et je sais qu'ils sont toujours de même. Parce que là où j'avais quitté aussi, ils n'ont pas mis ça dans un compte. Ils ont pris eux-mêmes. Ils sont pressés de prendre l'argent. Les 3 mois, tu les donnes cash. Ils ne mettent pas ça. Et tu te l'as à courir encore. Bon, je vais réclamer mes droits. Je vais dire que c'est comme ça. Il va te dire, bon, bah alors, comme tu cherches tes droits, comme tu cherches à ceci, tu ne loues plus mon appartement. Allez, c'est fini. Au revoir. Mm-hmm. Bon, c'est une situation difficile quand tu as envie de te loger. C'est ce que je vous dis, le droit, on ne peut pas le respecter. On peut bien connaître ses droits, mais qu'on les fasse respecter, c'est difficile. C'est un long trajet, quoi. Mm-hmm. Oui, c'est sûr.
Voilà. Bah, écoutez, on va continuer après une petite pause musicale. Je pense que maintenant, c'est Brigitte Fontaine qui va suivre justement par rapport à un problème de fuite de gaz. Ça raconte ça. Voilà.
La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
La, la, la. Si?
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la.
Vous êtes toujours bien en direct sur Radio Panique. Alors nous sommes toujours avec nos problèmes de logement. Khadija, elle... Khadija, elle, est au relais. Et en aparté, toi, Aurélia, tu me disais que, en fait, c'était pas du tout évident de trouver une place en urgence comme ça.
Alors, ben, je me permets de dire ça par rapport à une famille que je connais pour l'instant et que je suis depuis quand même plus d'un an, où toute la difficulté, ben, c'est la situation. On a une famille qui vit dans un logement depuis 95. L'appartement, l'immeuble est vendu et puis est revendu sous forme. On vend appartement par appartement. Il est racheté par une famille qui elle-même a des grosses difficultés de logement et souhaite rentrer dans son appartement, ce qui est tout à fait légitime. Entre-temps, la famille cherche à se reloger. Je rappelle à tout le monde que le RIS, l'ancien Minimex, c'est actuellement 948 euros. Trouver un logement, trois chambres, puisqu'il y a trois enfants et un couple, eh bien, on trouve pas. Et ce monsieur, en même temps, n'accepte pas du tout l'idée de rentrer dans une maison d'accueil où on va se retrouver avec des gens qui ont tous des difficultés, comme le disait Khadija, et où c'est pas évident parce que tout le monde a envie d'avoir son chez-soi. Elle a beaucoup parlé du chez-soi, être chez-soi. Je pense que ça résonne en tout le monde, chez tout le monde, ce mot chez-soi. Et quand on est dans une maison d'accueil, on n'est pas chez-soi. On est en transit. Ça veut dire qu'on est en attente. Ça veut dire qu'on est en insécurité. Et en fait, ce monsieur, finalement, il y a eu un jugement qui prononce... Enfin, le juge a autorisé l'expulsion puisque la famille est dans ses droits... Enfin, la famille qui a acheté l'appartement est dans ses droits pour rentrer dedans. Monsieur s'est enfin... Enfin, il a dit, j'ai pas le choix. Hein. C'est aussi un mot qu'on entend ici, qui est déjà l'a dit, on n'a pas le choix. Madame Diallo l'a dit aussi, on n'a pas le choix. Et donc, ce monsieur, il n'a pas le choix. Il n'y a pas de place dans la maison d'accueil. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si quelqu'un a une réponse, si un auditeur a une réponse... Il peut nous appeler. Je l'invite vivement. Je connais aussi une autre famille dont le logement a été déclaré insalubre. Il y a 6 enfants. C'est un couple avec 6 enfants de 3 mois à 8 ans. Ils n'ont pas de chauffage actuellement et on ne trouve pas de logement. Et quand on appelle une maison d'accueil et qu'on dit « Est-ce que vous pouvez héberger une famille avec 6 enfants ?» On vous rit au nez en disant « Mais non, c'est pas possible, on n'a pas la place. » Alors il y a urgence à réagir. Et Alarme, c'est aussi un groupe qui, chaque fois qu'il a l'occasion de témoigner, il souhaite sensibiliser les autorités compétentes pour des changements structurels. On a besoin de toutes sortes de mesures pour que le droit au logement qui est dans la Constitution, dans l'article 23, soit respecté. Parce que sinon, ça va coûter très cher à la société. Quelqu'un qui se retrouve à la rue pour, après qu'il réintègre la société et qu'il fasse partie de cette société, eh bien, ça coûte très très cher. Et ça coûte peut-être plus cher dans le long terme que de laisser les gens dans la rue.
Eh bien, oui, on je dirais presque qu'on a plus qu'à se taire, tellement c'est fort ce que tu viens de dire, Aurélia. C'est vrai que tu parlais de se retrouver dans la rue. Je me dis, Madame Diallo, dans tout votre malheur, vous êtes retrouvée à 5 mois à l'hôpital avant de pouvoir rebondir. C'est, on perd ce logement. Où est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se produire? Khadija, toi, tu avais expliqué que c'était pas du tout envisageable pour toi de rester longtemps dans la famille, même si tu ouvrais les portes, parce que, enfin, tu peux peut-être m'expliquer pourquoi.
Pourquoi? Parce que ben, la raison est déjà les finances, l'entente. Je veux dire, sur le moment, c'est chouette parce qu'on est, on se retrouve, on est en famille, mais à long terme, ben, c'est les inconvénients, c'est dire, bon, ben voilà, peut-être pas beaucoup de place, ou les enfants, ça court, ça bouge, je veux dire... Tout ce qui est relationnel peut se dégrader et je l'évite. c'est mieux. Et puis en même temps, c'est la dignité de soi, quoi. Dire, ben voilà, je vais pas rester éternellement dans la famille. Il faut que je trouve quelque chose et se battre pour trouver quelque chose de décent et...
Tu avais dit aussi, j'avais compris en des lignes, c'est que revenir dans la famille, c'était se plier aussi à une culture pour toi, mais aussi pour les enfants, une façon d'être qui n'était pas, enfin, on évolue tous, qui n'était peut-être pas la même que celle que tes parents.
Oui, parce que bon, ben, y a plein de choses qui nous différencient. Une, parce que. Je suis plutôt une personne entre guillemets européanisée et puis j'ai pas, mes enfants n'ont pas grandi comme certaines personnes de ma culture et c'est vrai que c'est difficile pour moi et c'est difficile pour mes enfants, mais ça n'empêche pas que j'aime ma famille et que voilà. C'est une question de respect aussi, hein. C'est pas une question de contrainte ou de, c'est surtout le respect.
Respect mutuel, l'un vis-à-vis de l'autre.
Voilà. Ah oui.
Et vous, Madame Diallo, si vous n'aviez pas eu ce logement, qu'est-ce que vous aviez comme solution?
Puis, y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que moi, d'abord, je venais de quitter, comme je vous avais dit, à la rééducation, un hôpital. Donc, j'en avais marre de rester dans des coins, par exemple, au relais où c'est pas accueil. C'était difficile parce que là où j'étais déjà, ça, j'en avais marre. À plus forte raison, encore revenir dans ce même tétal ou dans ce même cadre, quoi. Et comme maison d'accueil ou je sais pas quoi. Donc, c'est difficile. Quand on perd un logement ici pour se reloger, c'est un parcours du combattant. C'est pour cela que même quand c'est insalubre, même quand c'est difficile, tout est sous par là-dedans, tu es obligé de se cacher pour un instant là où tu es. Parce que c'est retourner, c'est avoir des ennuis encore. On se dit, ah, c'est que j'ai eu assez de problèmes, bon, revenir encore sur le même chemin, reprendre, venir par-ci, par-là, rencontrer des gens pour le loyer. Bon, c'est le même rythme, quoi. Donc, c'est pour cela qu'on s'accroche, malgré que ce ne soit pas terrible, bien comme ça, mais on s'accroche, on dit, bon, voilà. Il y a des choses, quand les gens viennent voir, ils te disent, mais ce n'est pas possible, comment tu peux vivre dans ça? Ben, tu dis que ouais, je vis dans ça, parce qu'il n'y a pas moins. D'abord, tout coûte cher. Vous savez, ici, aujourd'hui, pour se loger, le loyer coûte énormément cher. Donc, aux alentours de 400 euros, je ne sais pas quoi, quoi. C'est ça, c'est je peux dire que c'est énorme. Ce n'est pas facile, quoi. Donc,
Ce qui me frappe, c'est que, bon, moi, j'avais aussi rencontré des gens qui dormaient chez l'un, chez l'autre. Enfin, on voit pas tous ces gens qui ont des problèmes de logement. Donc, ils dorment chez l'un, chez l'autre. Ils dorment dans des logements qui sont insalubres, mais personne ne le sait parce qu'il faut aller militer, il faut aller le dire, ça. Et que quand on est dans une situation si difficile, c'est difficile d'aller dire, mais écoutez, j'ai un logement et puis il est insalubre. C'est vraiment impossible. Donc,
c'est impossible parce que tu dis là que, bon, voilà, je me fais découvrir, le propriétaire est là, quand il sait ça, vraiment, il vient vous harceler carrément. Ah, donc, tu es allé voir, tu es allé à la commune, soi-disant que c'est insalubre, donc fais tes bagages, quitte. Ben alors, tu vas te retrouver encore dans une situation de recherche. C'est ce qui fait qu'en fait, que les gens cachent leur situation. Si, même s'ils ne cachent pas, bon, ils se cachent en fait parce qu'ils savent bien que ce n'est pas normal. L'humidité, ça nuit à la santé et tout, ça cause des ennuis de santé et tout, mais ils voient, ils sont là en train de faire leurs choses chaque matin, arranger la situation pour pouvoir y vivre. Mais aller dénoncer, c'est des ennuis qu'on retrouve après parce qu'on te met dehors. Et tu retrouveras encore la même situation chez le même locataire, le même propriétaire, encore peut-être pire. Donc, toujours confronté à la même situation, sans changement, ça stagne, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Moi, en tout cas, c'est le gros point d'interrogation que je me pose, et je pense que pas pour le moment que je trouverai une réponse, quoi.
Mmh. Voilà. Aurélia, je sens que tu as envie de réagir.
Mais tout ça me semble lié à la peur et la crainte de perdre le logement. Et donc, j'ai des gens qui vont parfois payer des taux dits 600 euros. Vous avez parlé de 400 euros. Ça, on parle peut-être d'un appartement pour une personne. Mais qu'en est-il des familles? Et aussi des problèmes d'insalubrité qui sont liés, par exemple, vous parliez de l'humidité. Alors, l'humidité, c'est un grand sujet. Ici, tous les sujets qu'on aborde, on pourrait y passer une émission pour chaque, presque. J'ai perdu le fil. Donc l'insécurité et la perte du logement paralysent. Tout le monde sait que la peur, quelle que ce soit, de perdre son logement, c'est quelque chose qui fait qu'on devient paralysé. Alors, voilà. J'entends beaucoup, il n'y a rien à faire, etc. Si, Madame Diallo. Parce que même quand on est dans un logement qui n'est pas impeccable, une fois qu'on est dedans, on a des droits. Hein, et l'apprentissage que vous avez fait, avec le soutien de la maison de quartier Bonne Vie, c'est de dire, est-ce que là, je suis dans une position où je peux défendre certaines choses? Et je pense que vous avez quand même obtenu. Alors, dire tout à l'heure qu'il n'y avait pas de chauffage, si, il y avait un chauffage, mais qu'il n'était pas relié convenablement, etc., etc. Et donc, c'est comment, dans une situation, on peut chercher ensemble à améliorer les choses. Et ça, c'est le combat que vous menez. Et c'est là, c'est de dire aux gens, il y a un combat à mener, il y a à faire respecter les choses. Et comme, en tant que travailleuse sociale, quand un locataire n'agit pas de manière positive non plus, j'essaye d'amener progressivement à prendre conscience de, ok, ça c'est juste, ça c'est pas juste, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça soit un petit peu mieux, hein? Donc, si, il y a des choses à faire. Et il y a certainement à apprendre ses droits. Alors, je ne sais pas, je pense que l'émission, on avance beaucoup dans cette émission.
On est presque à la fin.
Et j'aurais bien aimé entendre cette chanson qui parle de la balade de l'instruction, ou le chant de l'instruction, qui est un chant qui a été créé dans le cadre d'une pièce de théâtre qui s'appelait Les Ambassadeurs de l'Ombre, et notamment dans lequel une pièce de Laurent Branson fait avec des personnes issues du quart monde, et qui dit « Sans appris, apprends à lire ». Parce que c'est effectivement l'instruction, quand on apprend ses droits, on finit par être capable de les défendre. Et on sait qu'ils existent. Et le chemin, c'est ça. C'est ça.
Oui, bah alors je propose qu'on écoute tout de suite ce chant, et puis on va se retrouver pour la conclusion d'émission.
Le temps est venu. Apprends ton ABC, ça ne suffit pas pourtant, apprends-le. Sans perdre ton courage, commence, tu dois tout connaître, car tu dois maîtriser le monde, car tu dois maîtriser le monde. Apprends homme au chômage, apprends homme en prison, apprends femme dans ta cuisine, apprends femme de 60 ans. Car tu dois maîtriser le monde. Va à l'école, toi sans abri. Prends le savoir, toi qui as froid. toi qui as faim, saisis le livre, prends-le, c'est une arme. Car tu dois maîtriser le monde, car tu dois maîtriser le monde. N'aie pas peur des questions, mon ami, ne te fie à rien de ce qu'on dit. Car il te faut te voir par toi-même, vérifie la somme, c'est toi qui la paie. Pose le doigt sur chaque note, que vient-elle faire ici? Car tu dois maîtriser le monde, car tu dois maîtriser le monde, car tu dois maîtriser le monde, car tu dois maîtriser le monde.
Voilà, nous sommes toujours en direct sur l'émission de Radio Panique, Elles en parlent encore, une émission de Vie Féminine Bruxelles, tous les samedis entre 13 et 14 heures. Alors aujourd'hui, ben vous avez entendu, on parle du mal logement, du logement et des femmes. On a beaucoup entendu parler un petit peu en filigrane de toute l'émission, de tout ce que Alarme fait. Donc quelque part, c'est cette façon, cette capacité à lutter pour sa situation seule, comme toi tu disais, mais si on a des droits, on peut imaginer ce qu'on fait stratégiquement. Et puis aussi cette façon de lutter en groupe, parce que je pense qu'Alarme a déjà fait beaucoup de choses, beaucoup d'actions en groupe. Alors toi Khadija, quand tu entends cette façon de penser qu'on est capable de lutter pour soi et pour les autres, tu en penses quoi toi?
J'en pense que ça fait du bien pour les gens qui sont seuls. Quand je dis seule, c'est par exemple moi, quand j'ai perdu mon appartement, ben j'étais seule. Je savais que j'avais des portes ouvertes, enfin des portes à les frapper et qui me seraient ouvertes, mais on a toujours envie de se battre seule en fait, tout d'un coup. Je veux dire, dans le combat qu'on a mené pendant des années, on se dit mais une fois réussir, et c'est la difficulté. C'est de se dire qu'on réussit, parce qu'on avance, mais on recule en même temps.
Et peut-être que d'être ensemble, de lutter ensemble, peut-être qu'on est plus fort. Madame Diallo, ça vous a apporté quoi ce combat ensemble? Et puis j'ai entendu que vous aviez fait du théâtre.
Ben oui, on a fait du théâtre parce que là aussi c'est quelque chose, avec le groupe Alarme, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Parce que si je parle de mon cas ou de l'ensemble, parce que ce jour-là j'avais expliqué mon problème à moi, l'incendie et tout, j'avais expliqué le problème qui me faisait paniquer, que je n'arrivais pas à dormir parce que tout le temps j'avais des odeurs, j'hallucinais, je pensais à des odeurs qui auraient eu incendie à cet appartement. Et qu'il n'y aurait pas eu de détecteur de fumée qu'on avait placé et qu'on m'avait dit vraiment, normalement, on devait, parce que moi, je sortais de ça, qu'on devait placer ça. Et je luttais encore avec la propriétaire pour installer ce détecteur de fumée. Mais c'est à travers le théâtre qu'on a eu à faire que j'expliquais la situation et le panique que j'avais tout le temps, qu'une femme a acheté un détecteur de fumée et qu'on a placé à la maison, parce que là, c'est mon histoire à moi que j'avais expliqué au cours de ce théâtre qu'on avait fait. Donc vraiment, ça a apporté beaucoup de choses pour moi et pour les autres. Il y a des personnes qui vivent des situations et qui n'arrivent pas à les exprimer. Et généralement, quand une personne exprime, beaucoup de solutions, on trouve beaucoup de solutions à travers une seule personne ou un théâtre qu'on a exprimé. Donc voilà, moi je sais que ça apporte beaucoup de choses et les autres personnes qui n'ont pas eu le temps ou la chance de venir s'exprimer ici le savent aussi, parce qu'on parle toujours au nom d'un groupe, au nom de beaucoup de personnes qui sont comme moi ou comme Khadija, où voilà, on représente des personnes, des milliers et des milliers de personnes. Donc, c'est très, très important. Alors, moi, je sais que ça aide énormément. Comme je vous ai dit tantôt, c'est difficile d'exprimer, de dire que, bon, voilà, faites ça. Ces droits, on les connaît. On nous pousse vraiment à exprimer, à dire, à défendre nos droits. Je sais que il y a un peu de difficultés selon les gens, mais on nous pousse. On sait, voilà pourquoi moi je sais que j'ai mes droits, je sais qu'il faut les défendre. Donc, comme, si je me retire un peu, c'est juste pour, comme je vous ai dit, parce que d'autres personnes ne voient pas ce que je vois et puis ils peuvent me dire vite, bon voilà, en essayant de défendre trop mes droits, ils peuvent me dire, bon allez, vous dégagez, comme je vous ai dit. Donc, mais à travers ça, on force, puis on guide d'autres personnes aussi qui n'ont pas l'opportunité qui ne savent pas. Parce qu'il y a des personnes aussi qui s'efforcent, mais qui ne savent pas lire ni écrire, qui ne peuvent pas défendre les droits. On les pousse aussi, on dit que bon voilà, allez, on les tire vers l'arme, ou bien dans d'autres associations, on dit bon voilà, viens, on va t'expliquer, c'est comme ça. Avec le dialecte qu'on peut expliquer, par exemple, moi j'explique à d'autres personnes qui est de mon pays, d'origine des Guinéens, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, je leur dis bon voilà, c'est comme ça. Et c'est des femmes qui ne savent pas lire ni écrire, c'est ici qu'elles s'efforcent à comprendre et à lire. Et à, bon, voilà, je leur donne assez de chance à travers l'alarme en les expliquant ce qu'elles doivent faire.
C'est comme si vous aviez une force en plus parce que vous étiez ensemble.
Exactement, c'est une autre force. Ça pousse vers beaucoup, ça te pousse vers beaucoup de choses que tu pensais impossibles et que, en fait, c'est possible.
Alors, c'est la dernière émission de l'année. Alors, bon, j'ai presque envie de vous dire quels sont vos souhaits pour 2009, parce que quand on change d'année, on a des souhaits. Bon, des souhaits, c'est un peu vague. Moi, je voudrais des revendications. Alors, Khadija, en quelques mots, en une phrase, ce serait quoi ton souhait pour ta revendication pour le logement pour 2009?
C'est qu'on trouve une solution pour tous les gens qui n'ont pas de logement. Et surtout, les aider, mais avec quelque chose de concret. Pas des promesses et puis qu'on se retrouve sans rien.
Et vous, Madame Diallo, une revendication pour 2009?
Bon, pour 2009, donc d'abord, je veux remercier la Radio Panique qui nous a reçus ici et qu'on ait pu exprimer ce qu'on avait. Hein, et puis, je pense que vraiment, je souhaite réellement qu'on respecte tout ce qu'on dit. Pas de promesses. Les promesses, vraiment, ça nuit. Souvent, on est là à espérer et qu'on a chaque année, et puis c'est la même chose, qu'on n'ait pas de solution. Et que les promesses, vraiment, s'arrêtent, qu'il y ait du concret. Et ça, vraiment, je le souhaite pour tout le monde et que l'année 2009 nous apporte ça à nous tous, quoi.
Que tous les logements promis soient construits.
Soient construits.
Il y a des endroits adéquats,
voilà,
pas voilà, en dehors
voilà,
de
voilà.
tout.
Voilà, qu'on n'exhibe pas les chantiers comme ça vides et qu'on voit quelque chose de concret, quoi. Voilà.
Madame Diallo a dit « c'est possible ». Oui, c'est possible. Et donc, la parole cachée, il faut qu'elle arrive au grand jour. Plus de promesses, on veut plus de plans, on veut des logements.
Voilà, ben écoutez, on se retrouve à 2009 avec de nouvelles émissions. Et bonne année à toutes et je pense bon anniversaire à Radio Panique.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.